marche du monde.
Je vous ai emmené ici, à côté de l'appontement de Saint-Laurent, où débarquaient les transportés. C'était vraiment le lieu d'arrivée des bagnards lors d'un voyage assez épuisant qui mettait 3 semaines. Donc les transportés partaient de Saint-Martin-de-Ré et arrivaient au bout de 3 semaines, un mois, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on est face aux vestiges de cet appontement et en même temps on est aussi face à une des plus belles vues de Saint-Laurent, l'embouchure de son fleuve Maroni, le Suriname qui est juste en face de nous, des villages amérindiens, une pirogue qui se promène au loin. Donc voilà, toute une autre image que celle à laquelle on s'attend en arrivant en Guyane.
Marie Bourdeau, lorsque vous arrivez en 2008 ici à Saint-Laurent-du-Maroni pour prendre votre poste de responsable du patrimoine, quelle image vous avez de la Guyane ?
Au départ, en fait, je voulais pas venir en Guyane.
Pourquoi ?
J'avais l'idée d'une terre difficile, d'une forêt hyper abondante, d'un endroit humide et puis plein de militaires partout, donc tous les clichés qu'on peut avoir en venant
des
animaux, des bestioles, des araignées, des anacondas, des caïmans, bref, tous les clichés qu'on peut avoir quand on arrive de métropole. Je connais pas du tout l'histoire du bagne en arrivant, mais finalement c'est l'image qui est véhiculée dans la culture populaire, et donc c'est à ça que je m'attendais en arrivant en Guyane.
Donc au fond, dès qu'on met un pied à Saint-Laurent, on met un pied dans le bagne ?
Exactement. Dès qu'on met un pied à Saint-Laurent, on met un pied dans le bagne et après, c'est extrêmement difficile d'en ressortir.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Nous revenons sur les lieux du crime, hein, Marie Bourdeau.
Oui, tout à fait. Nous revenons sur le lieu où on a découvert les archives de la commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni.
Donc on se fait ouvrir la porte. Voilà. Merci, monsieur. Donc à l'époque, Marie Bourdeau, vous poussez la porte, vous faites ouvrir ce local technique, et qu'est-ce qui s'offre à vos yeux ?
Là, toute l'histoire de la commune de Saint-Laurent, des papiers anciens par terre, entreposés les uns sur les autres, des crottes de chauve-souris, une odeur très forte, des traces d'humidité. Voilà, et l'histoire de Saint-Laurent a même le sol, l'histoire de la commune pénitentiaire a même le sol, donc des archives quand même fortement abîmées, mais finalement un trésor était sous nos yeux.
Et là, on est en quelle année ?
Là, on est en 2008 quand on découvre les archives, donc c'est une cinquantaine d'années après le départ de l'administration pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni.
Qu'est-ce que ces archives communales que vous avez retrouvées, Marie Bourdeau, ici à Saint-Laurent-du-Maroni, apportent à la connaissance de l'histoire du bagne ? Puisque les archives pénitentiaires, elles, existent déjà à Aix-en-Provence, elles ont été beaucoup visitées par les historiens.
Elles nous apportent tout un pan de l'histoire du bagne méconnu et jamais étudié, qui est les relations entre les commerçants créoles, les transportés libérés, donc les bagnards qui vivaient à Saint-Laurent-du-Maroni, l'administration pénitentiaire aussi, leurs relations au quotidien, leurs rencontres au marché de Saint-Laurent, les demandes des transportés auprès de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, les fêtes qui étaient organisées aussi de façon régulière à Saint-Laurent et toute cette vie, ce vivre ensemble finalement qui est assez étonnant, mais qui existait dans le centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni entre ces populations multiples.
Voilà, donc je monte dans les étages du musée du bagne, ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Un camp de la transportation transformé en musée, avec vue sur le fleuve Maroni. Donc je rentre dans les bureaux et on m'a indiqué le bureau de l'archiviste, donc Emma Lossano, qui doit être le dernier bureau sur ma gauche. Est-ce que c'est... Oui, c'est là. Bonjour.
Bonjour.
Donc Emma Lossano, oui. Vous êtes bien l'archiviste du musée du bagne.
Oui, bonjour, enchantée.
Voilà. Donc avec Marie Bourdeau, nous sommes allés sur les lieux mêmes où cette découverte a été réalisée, cette découverte des archives communales de Saint-Laurent-du-Maroni. Et vous avez donc, vous, récupéré toutes ces archives pour pouvoir les classer, pour pouvoir les explorer. Et j'ai envie de savoir, bien sûr, ce que vous avez trouvé. Alors, comment vous travaillez? Je vois qu'il y a l'ordinateur ouvert, évidemment, devant le bureau. Cela veut dire que vous avez déjà numérisé un certain nombre de ces archives?
Oui, donc on a fait un classement et l'inventaire. Donc, on a tout l'inventaire des cartons, plus de 250 cartons. Donc, dans les archives communales, on trouve les centaines d'histoires qui concernent la vie quotidienne de la ville communale de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, par exemple, on retrouve des documents qui concernent les libérés. Donc, une fois ces condamnés ont fini leur peine, donc ils sont libérés et donc ils essaient de retrouver un travail. Et certains, par exemple, donc essayaient de créer des petits commerces, des épiceries. Et les maires commençaient toute une enquête. Donc, demander à la police, par exemple, de faire une enquête sur cette personne. Et la police donnait leur avis si ces libérés pouvaient, oui ou non, ouvrir le commerce. Donc, dans les archives, nous conservons aussi des cartons qui concernent l'usine Saint-Maurice. L'usine Saint-Maurice, c'était la roumerie que l'administration pénitentiaire a créée à l'époque. Donc, par exemple, il y avait des libérés qui avaient des concessions agricoles. Donc, ils avaient de la canne à sucre. Donc, éventuellement, ils pouvaient vendre la canne à sucre à cette usine. Et cette usine, elle est toujours productrice des rhums ici à Saint-Laurent.
Ces documents, Emma, montrent bien à quel point les bannières sont insérées dans la vie quotidienne ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, sur votre bureau, je vois des tas de dossiers. Je suis curieuse, je regarde. Vous êtes en train de monter des dossiers. À quoi correspondent-ils ?
Là, par exemple, nous avons une demande de la fille de M. Emilien, qui était pharmacien et à l'époque du bagne. Donc, il nous a demandé si, éventuellement, nous pourrions retrouver aux archives et quelques documents concernant leur père.
On voit à quel point vous avez trouvé effectivement un trésor ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand Emma, l'archiviste, nous explique en fait toute la richesse des documents qui sont maintenant conservés ici au musée du Bagne, ça permet finalement de raconter l'histoire autrement et de rentrer dans une histoire finalement méconnue, qui est une histoire beaucoup plus intime.
Oui, effectivement, c'est l'histoire intime des Amérindiens, des Bushinengués, mais également des transportés. À travers ces archives, on peut véritablement s'intéresser à des parcours de vie qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Et ça nous permet en fait de reconstituer le puzzle de la vie quotidienne à Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui est extrêmement important et ce qui nous manquait jusqu'à présent.
On a souvent les pieds dans l'eau, ici, à Saint-Laurent-du-Maroni. Là, ça y est, je suis complètement trempée.
Surtout pendant la saison des pluies.
Voilà, donc direction le centre-ville. Je me laisse guider.
Donc là, vous prenez à gauche après la place de la République. C'était vraiment le lieu de fête et de rencontre des Saint-Laurentais. Il faut savoir que pendant l'époque du bagne, il y avait énormément de fêtes organisées qui mêlaient aussi bien les surveillants militaires que les commerçants créoles. Donc voilà, au centre, la Marianne. Qu'on retrouve un petit peu dans toutes les colonies, les anciennes colonies françaises, qui étaient au centre de cette place de la République.
L'architecture de la ville porte cette mémoire coloniale. Marie Bourdeau, où sommes-nous ?
Là, on est devant une maison de commerce d'un commerçant qui s'appelait Lalanne, qui était un commerçant créole, qui est venu s'installer à Saint-Laurent-du-Maroni lorsque le bagne s'installe et lorsque parallèlement l'orpaillage démarre vraiment sur le Haut-Maroni. Donc c'est deux événements concomitants qui font que des commerçants créoles qui étaient à Cayenne viennent s'installer à Saint-Laurent, rachètent les concessions des bagnards qui étaient installés en centre-ville et construisent ces jolies maisons bourgeoises en plein cœur de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc il faut bien comprendre que les bagnards vivent pour certains dans le centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni et du coup ils vont épouser des Saint-Laurentaises, faire des enfants, tenir des petits commerces. On a notamment beaucoup de transportés d'origine algérienne qui ont des commerces dans les rues plus au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, notamment la rue Thiers, la rue Simon, où on retrouve des petits débits de café, de petits magasins où on vend de la limonade, des cigarettes ou autres. Et pour ces magasins, ils sont tenus pour la plupart par des transportés algériens.
Donc des anciens bagnards, hein,
des anciens bagnards algériens.
Cela veut dire que les coloniaux aussi sont déportés au bagne Marie Bourdeau.
Oui, tout à fait. On a souvent l'impression que cette histoire carcérale était une histoire de métropolitains, mais en fait, c'est une histoire de l'empire colonial, puisque plus d'un quart des transportés ou des relégués étaient des condamnés issus des colonies françaises, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et pour certains l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut bien comprendre que l'histoire de la transportation ne s'arrête pas à la métropole, mais qu'effectivement c'est une histoire totalement coloniale.
J'ai d'ailleurs rencontré Jean-Claude Blanche, qui est un historien guadeloupéen. J'ai rencontré au musée du Bagne et il est venu ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, pour faire des recherches sur un condamné congolais. C'est ce qu'il m'a raconté.
Moi, j'ai travaillé sur les Congolais qui sont venus en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage, parce qu'il y avait un gros problème de main-d'œuvre. Et puis, il y a particulièrement l'un d'entre eux qui a été condamné aux travaux forcés et qui est venu ici à Saint-Laurent. Donc je suis venu un peu sur ses traces.
Il s'appelle comment ?
Goma. Goma Zoma.
Et en deux mots, quelle est son histoire ?
Son histoire, justement, on n'a pas toutes les informations, mais il aurait incendié une case à bagasse. Bon, c'était pas grand-chose, mais n'empêche qu'il a eu un procès. Et il a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour ça.
Finalement, les transportés algériens ou africains étaient probablement aussi des condamnés politiques, mais ils n'avaient pas cette dénomination. Ils étaient envoyés au bagne en Guyane pour les éloigner de leur territoire et pour les empêcher en fait, de toute forme de résistance contre la colonisation française. Mais seuls les Vietnamiens avaient ce statut de condamné politique en Guyane.
À quelques rues du village colonial, donc ce quartier officiel, Marie Bourdeau, et nous sommes à un carrefour entre l'église Saint-Laurent et une maison toute en bois, toute passée au niveau des couleurs, un camaïeu de gris et de vert, avec un premier étage avec balcon et un toit de tôle, parce que c'est une maison d'une femme qui a témoigné dans le cadre de la grande collecte que vous avez initiée ici à Saint-Laurent-du-Maroni, au musée du Bagne. Alors à qui appartenait cette maison ?
Cette maison, elle appartenait à la famille Osakwa, qui était une famille de commerçants chinois. Et c'est Rosette, dit Mimi Osakwa, qui nous raconte sa vie à Saint-Laurent-du-Maroni à l'époque du bagne, dans le parcours d'exposition, et qui nous raconte comment, de son balcon, elle venait titiller les bagnards qui passaient et qui se rendaient au camp de la transportation, qui rentraient de corvée et qui venaient boire un petit verre de tafia avant de rentrer au camp de la transportation.
Ah oui, les bagnards, ah oui, oui. Tous les matins, je les voyais passer. Alors, ils étaient en groupe. À l'époque, moi, j'aurais dit une cinquantaine, hein, peut-être une centaine de bagnards qui étaient habillés avec la vareuse à rayures blanc et rouge, et ainsi que le pantalon. Mes parents étaient dans le quartier officiel, donc les commis, les surveillants militaires, commandé toutes sortes de choses que mes parents commandaient à la Samaritaine ou aux Galeries Lafayette. À Saint-Laurent, on trouvait l'alimentation, on vendait des pommes de terre, en fait tout ce qui a trait à l'alimentation et à la boisson. Oui. En face de chez nous, il y avait une petite baraque là, dans le coin, où se trouvait un bagnard qu'on appelait le porte-clés. Alors nous, les enfants qui étions en face là, sur le balcon, nous taquinions le porte-clés là, tous les soirs. On l'appelait porte-clés et puis on allait se cacher et on rigolait bien sûr. Je les voyais passer, sortant du camp et passer devant chez nous là. Et puis ils se dirigeaient vers les cultures. Et le soir, à la tombée de la nuit là, eh ben, ils repartaient et regagnaient le camp.
L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur les Saint-Laurentais qui avaient vécu cette époque, celle du bagne, qu'ils soient fils de commerçants, fils ou filles de transportés, et de s'appuyer sur leurs témoignages pour avoir tout un pan de l'histoire qui ne nous était pas raconté à travers les archives communales. Donc à travers cette collecte, on a pu interviewer des fils ou filles de commerçants créoles, mais également des descendants de transportés. C'était important pour nous d'avoir cette multiplicité de points de vue, et donc des descendants de transportés ont bien voulu jouer le jeu, notamment Jean-Marie qui nous raconte un petit peu sa vie aujourd'hui dans la case de son papa qui était relégué au bagne.
Je suis Jean-Marie Vaughan. Je suis né à Saint-Laurent et fils d'ancien forçat. Eh bien, vous êtes dans la concession qui a été appartenue à mon père. C'est des concessions qu'on remettait aux forçats à leur libération. Il n'y avait qu'une maison. Oh, je l'aime parce que c'est le travail de mon père. C'est un cadeau que mon père fait à ma mère. Et puis moi, je ne veux pas... Mon père, bon, il était menuisier-charpentier, il réparait une table, une chaise. Avec de la terre, du cirage, il te faut une couleur. Après, il fait du vernis, tu vois, ça brille, tu te dis, mais c'est beau. J'ai une table que mon père a fait là, c'est à la maison. C'est faite de ses mains. Mais pour la lever vous seul, vous ne pouvez pas. Elle pèse une tonne. Je vais vous dire, c'est du bois de Guyane. Mais fait à la main. Ouais, parce qu'on était dans la brousse. Le camp, on l'a laissé exploiter. Personne ne disait rien du tout. Les gens qui sont entrés au camp, ils ont tout déformé, ils ont tout cassé, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais c'est un monument qui devait rester, ça. Quand la mairie a repris le camp de la transportation, les gens se sont vite affolés pour récupérer des souvenirs, des briques. Ils trouvaient par exemple une petite menotte, un objet du ban. Ils partaient avec. Mais quand on s'est rendu compte, c'était déjà trop tard.
La marche du monde en Guyane sur les traces du bagne, ici à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à suivre juste après les infos sur RFI.
Marche du monde.
Je m'appelle Monsieur Awasai, Paulus Abolo, d'origine Bushinengé. Ouais. Mais à mon âge d'enfance, tous les magasins qu'il y avait sous le fleuve, ben c'est que de bagnards qui vendent des petites alimentations générales pour les gens, des petits trucs. C'est plutôt des bagnards qui avaient des magasins tout le long du fleuve.
À Bolo, cette histoire de bagne, est-ce que c'est l'histoire des Blancs ou est-ce que c'est l'histoire de tous les Guyanais?
Ah non, l'histoire de bagne, c'est pas uniquement le Blanc ni le Créole. C'est un nom général parce qu'il y a une signification et il y a de quoi avoir, il y a des faits. Tout ce qui a été produit à ces temps-là, ben, ça n'a pas été produit par une société X ni une société Z. Ben, c'était des bagnards. Et le trace est là encore là. On vit avec les traces. On a vu aussi la valeur de cette trace. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on apprécie le trace qui a été fait. L'ancien hôpital, tous les quartiers, le quartier officiel, la sous-préfecture, il y a le trésor public, il y a un tas de monuments historiques, il y a le camp, on est en train de rénover. C'est parce qu'il y a une histoire derrière. Donc, ce n'est pas une histoire de blanc ou noir, etc. Mais c'est général. On peut pas parler de la Guyane, surtout Saint-Laurent, sans toucher l'histoire de Bagne, ou le Bagnard. Si on est arrivé aujourd'hui à rénover tout ce qu'il y a dans le camp, transportation, éventuellement avoir un musée, un musée dans le camp, le contrat, on a dit, travailler dessus pour que le mémoire reste, parce que on peut pas parler de Saint-Laurent sans parler de l'histoire de Bagne.
Beaucoup de Guyanais sont concernés dans leur famille même, hein, en fait.
Beaucoup. Quand on parle de notre mère, Monsieur Léon Bertrand, ben, il n'y a pas que lui. Hein. Mais il y a beaucoup de métis que vous voyez ici. Ben, ce sont des descendants, ce sont des fils de Bagnard qui restent. C'est le reste de Bagnard. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mix à Saint-Laurent. Maintenant, c'est un plaisir pour la population. C'est un plaisir d'avoir un métis, un Chabin. Quelqu'un qui a la couleur mélange. Ça fait plaisir maintenant à tous les Guyanais. Et pour avoir un mélange ce soir, un noir et un blanc, pour faire le chocolat au lait ou le café au lait. Donc, comme je t'ai dit, là, on ne parle plus de ça. Histoire de bagnard, plus d'insultes. Il n'y a plus d'insultes là-dessus. Quelle que soit la culture, quelle que soit la couleur.
Ouais, donc y a plus à votre avis, c'est plus une honte?
Non. Non, non, non. Plus de honte, plus d'insultes, parce que bon, on est tous mélangés. On est tous pareils.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde en reportage en Guyane sur les traces du bagne. Nous poursuivons notre exploration de Saint-Laurent-du-Maroni, véritable capitale du bagne, où le camp de la transportation vient d'ouvrir ses portes au public. J'ai voulu rencontrer celui qui est à l'origine de ce projet. Il s'appelle Léon Bertrand, il est le maire de Saint-Laurent et il se sent très concerné par cette histoire.
Je suis petit-fils de bagnard, de Bertrand Lucien Louis, qui à l'époque est arrivé comme beaucoup. Au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, qui a rencontré ma grand-mère, qui était une créole à l'époque du Suriname. Ils ont fondé une famille, mon père, Chabin, comme on appelait à l'époque les enfants qui étaient issus de familles blancs et noires. Et puis ma mère, amérindienne d'ailleurs, et tout cela a donné le produit que je suis, donc petit-fils de bagnard, mais en même temps un produit de la mixité. Et c'est tout naturellement qu'avec d'autres, nous avons senti le besoin de garder ce bagne qui pour nous était une partie de notre histoire. Et donc un grand combat a été mené. Le premier, il fallait donc déjà faire passer cette idée au niveau de la population, puisque pour beaucoup, il épousait l'idée de mon prédécesseur. Pour eux, il fallait donc rayer le bagne de la carte de Saint-Laurent-du-Maroni, et donc il fallait faire passer l'image, au contraire, c'est notre histoire, il fallait l'accepter, il fallait l'assumer. Donc il y avait déjà ce premier combat qu'il fallait mener, puis le deuxième combat, c'était d'être propriétaire du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, je me souviens, aidé d'ailleurs par d'autres personnes à l'époque, je me souviens de l'ancien directeur départemental de l'équipement, M. Jacques Maurice, qui m'a beaucoup aidé dans... la démarche dans laquelle je m'étais engagé pour exproprier, pour récupérer le bagne,
Vous étiez donc convaincu de la nécessité de racheter ce lieu, mais peut-être l'idée du musée n'est-elle venue que dans un deuxième temps. Quels étaient les premiers projets ?
Les premiers projets, c'était d'abord en faire un lieu de vie où on aimait aller, contrairement à ce que c'était un lieu de souffrance. C'était peut-être parce que nous étions animés de cette envie de corriger immédiatement l'image qui était encore dans la tête de beaucoup, le bagne de Saint-Laurent-du-Maronnier. Je me souviens avoir reçu ici même, dans la salle de délibération, M. Trigano, et nous avons donc lancé des projets. Et puis, au fur et à mesure, ces projets sont tombés à l'eau, parce qu'il y avait aussi la pression gentille, mais malgré tout volontaire, des différents DRAC, des directeurs régionaux de l'action culturelle, qui me disaient « Non, monsieur le maire, au contraire, il faut que ce soit autre chose. » Et puis finalement, nous avons accepté cette idée. J'ai rongé un peu mes freins qui consistaient à ce que j'aille trop vite pour aller beaucoup plus lentement. Et puis faire que eh bien, nous ayons aujourd'hui cet édifice restauré petit à petit, avec aujourd'hui un lieu où eh bien, tout le monde aime à s'y rendre. D'abord lorsque, à l'époque, nous faisions ce qu'on appelle les transamazoniennes, c'est-à-dire des grandes manifestations, des concerts musicaux, avec des grandes pointures venant d'un peu partout, comme Jimmy Cliff par exemple, avec des artistes locaux. Et je disais toujours, pour rigoler un peu, c'était vraiment un vrai pied de nez au destin, parce que à l'époque on pensait que les bagnards avaient envie de faire le mur pour sortir, alors que avec des chanteurs comme Jimmy Cliff, c'était au contraire des jeunes qui voulaient faire le mur au sens inverse pour rentrer à l'intérieur, pour assister justement au spectacle. Donc progressivement, nous avons réussi à changer un peu l'image de ce bagne, et aujourd'hui j'ai presque envie de dire que les Saint-Laurentais sont fiers d'avoir sur leur territoire cet édifice qui apporte aujourd'hui des services à la population. C'est le musée, c'est bien entendu la salle d'exposition, c'est la bibliothèque, c'est le groupe Cocolompo qui y est, c'est d'autres projets importants que nous avons là. C'est aussi l'attractivité de Saint-Laurent-du-Maroni. Des bagnes comme ça, il n'en existe pas tellement dans le monde. Et pour moi aujourd'hui, le bagne, c'est quelque part une porte ouverte, c'est une fenêtre qui attire. Et lorsqu'on vient, on l'ouvre, et à partir de cette fenêtre, on découvre la réalité, l'authenticité de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est-à-dire une population, sa diversité, ses cultures, ses patrimoines, ses traditions. C'est tout cela que représente pour nous aujourd'hui le bagne.
Lorsque vous étiez gamin, est-ce que être un descendant de bagnard, c'était mal vu ? Est-ce que c'était tabou ? Est-ce que on vous a déjà traité de descendant de bagnard, au sens péjoratif du terme hein ?
Oui, absolument. Lorsque nous étions gamins, je dis nous parce que nous étions nombreux. Il faut savoir que je n'étais pas le seul. Beaucoup de bagnards sont restés à Saint-Laurent-du-Maroni, ont pris femme à Saint-Laurent et ont eu des enfants comme moi, c'est-à-dire des petits-enfants, des enfants de bagnards. Et donc, à l'école, souvent on était traité de ce qu'on appelait à l'époque « ishpopote ». « Ishpopote » voulant dire en créole petit-fils ou fils de bagnard, c'était presque une insulte. Et bon, mais c'était pas facile à porter. Et c'était peut-être un peu, lorsque j'ai voulu reprendre les choses, une façon aussi de prendre pour ma revanche. Et Dieu seul sait qu'elle a été bien prise, puisque dans mon parcours politique, ma vie a été une vie extraordinaire, parce que de petit-fils de bagnard, j'ai été à un moment donné de ma vie au plus haut niveau de l'État en tant que ministre du Tourisme. Donc ça montre bien que là aussi, l'alpha avait rejoint l'oméga en quelque sorte. C'était un pied de nez au destin.
Alors c'est ici au bord du fleuve Maroni que se trouve donc ce tout nouveau musée du bagne Marie Bourdeau, et devant nous le porche, l'entrée du camp sur lequel on peut lire très clairement camp de la transportation. C'est d'abord un monument, un patrimoine architectural unique ici en Guyane.
Oui, tout à fait, c'est le seul camp qui reste et qui a été restauré en Guyane, puisque les camps de Cayenne et de Kourou ont été détruits dans les années 80. Et le camp de la transportation, tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est le fruit d'une opération de restauration très importante, puisqu'elle a commencé en 1992, lorsque le 1945 ans a été classée au titre des monuments historiques et qu'elle se finit cette année en 2015.
Avec l'ouverture du musée du bagne, donc finalement nous marchons sur les traces mêmes des bagnards, Marie Bourdeau.
Nous sommes devant une sorte de caserne, comme l'appelait Eugène Dieudonné, qui était un bagnard qui est passé par le camp de la transportation. Là, sur notre droite, vous avez une case qu'on appelle case double, parce qu'elle est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, qui était l'infirmerie du camp de la transportation. Et sur la gauche, une case qui était destinée à l'administration et aux surveillants militaires. Et puis après, en enfilade, de part et d'autre, donc de cette allée centrale, nous avons des cases doubles et des cases simples destinées aux transportés de première, seconde et troisième classe. Les troisièmes classes qui étaient considérées comme les bagnards les plus durs, qu'on appelait également les incorrigibles. On est vraiment dans un système très hiérarchisé. Tous les transportés, quand ils arrivent ici, débarquent en troisième classe. Et puis, en fonction de leur comportement pendant leur détention, peuvent passer de classe en classe et pour espérer accéder à la première classe.
Qu'est-ce que ça permet justement d'accéder à la première classe quand on est dans ce camp de la transportation, lorsqu'on est bagnard au début du XXe siècle?
Alors, la première classe, ça permettait de travailler dans une famille. Donc, soit une famille de Saint-Laurentais, soit une famille de surveillants militaires. Et qui dit travailler dans une famille, dit du coup une amélioration un petit peu du quotidien, parce qu'on pouvait espérer attraper un petit paquet de cigarettes, un morceau de viande, ou échafauder des plans d'évasion. Donc ils étaient enfermés la nuit dans ces cases, et la journée ils partaient travailler en centre-ville, sur des chantiers de construction ou d'entretien du quartier officiel ou du village.
Et puis bien sûr, le soir venu, il fallait qu'ils rentrent ici, au camp de la transportation, pour dormir dans ces bâtiments qui se présentent à nous.
Alors à l'intérieur, c'était un système de blocos, donc c'était des prisons collectives. Chaque rez-de-chaussée ou étage pouvait contenir jusqu'à 50 personnes. Et puis dans les années 20, les conditions de détention se sont un petit peu améliorées. Et à ce moment-là, ont été construites des cellules individuelles. Et on est aujourd'hui en train de mener une opération très importante de restauration des décors peints, puisque chaque cellule individuelle était décorée, dessinée.
Oui, j'ai aussi vu un immense bateau, par exemple,
oui,
dans une
oui,
cellule.
Oui. Oui. Le bateau, c'est une thématique qui revient toujours, donc qui exprime soit le voyage, soit des rêves d'évasion, une fuite vers le Venezuela ou vers le Brésil. Donc on retrouve effectivement énormément de bateaux. On retrouve des portraits de femmes, des petits mots, des poèmes. Et donc ce sont toutes ces traces mémoire aujourd'hui qu'on essaye de sauvegarder, de présenter au public.
Saint-Laurent-du-Maroni, terre de bagne, Saint-Laurent-du-Maroni, terre de métissage, un héritage avec lequel le théâtre-école Coco Lampo s'ingénie à composer, puisque la compagnie est installée dans une des cases de ce camp de la transportation. Originaire de Guadeloupe, le comédien et metteur en scène Serge Abatucci se raconte entre deux répétitions.
En 1979, c'est mon premier contact avec la Guyane et Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est un contact, c'est un choc extrêmement fort, puisque l'arrivée sur le Maroni, la vue du Maroni, les peuples, les civilisations, les cultures, les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, c'était des gens qui étaient complètement méconnus, que je n'avais jamais visualisé, même pas toute la population du fleuve du Maroni. Le fleuve Maroni, c'est l'estuaire, c'est extrêmement impressionnant. Et puis la ville de Saint-Laurent, ancienne ville construite par le bagne, c'est vrai que c'était très spécial de voir cette architecture, cette ville extrêmement propre, organisée, toujours bien tendue, taillée. Même le camp de militaire où j'étais, où je fais mon service militaire à Saint-Jean, j'étais étonné de voir l'environnement, surtout quand on me décrivait Saint-Laurent et Saint-Jean comme l'enfer. C'était un camp disciplinaire, paraît-il, et qu'on était derrière à l'ouest de l'ouest, comme on dit en créole, des Daubondiers, au dos de Dieu. Et c'était un premier contact extrêmement fort.
Et en 79, à quoi ressemblait le camp où nous sommes aujourd'hui de Saint-Laurent-du-Maroni, le bagne?
Eh bien, à cette époque, le camp de la transportation, le bagne était La nature avait repris ses droits, le bagne était enterré sous cette nature luxuriante, et même à ce moment-là, il y avait des gens qui habitaient dans le camp, il y avait des jardins.
Potagers,
jardins vivriers, où les gens vivaient de ça. Donc il y avait une vie réelle, les Saint-Laurentais, les habitants, c'était réapproprier le camp. Il y a même des gens avant qui sont des Saint-Laurentais pure souche, qui sont assez contents ou fiers quand ils viennent ici maintenant. Et qui parle de ce temps où le camp était habité par des gens, c'était une petite cité.
Serge Abatucci, en tant qu'homme de théâtre, qu'est-ce que ça signifie pour vous que d'avoir une pratique théâtrale, que de développer une école de théâtre, ici même, dans les murs du bagne ?
Eh bien, être dans le bagne, ça n'est pas anodin, c'est carrément très très fort, ça laisse une marque. Au départ, on ne le savait pas, on n'a pas choisi exprès le bagne. Il y a, comme je dis, une contrainte du regard. Le regard est obligé, il est dirigé dans le bagne par rapport à l'architecture, son caractère concentrationnaire, et donc tout ça, ça existe encore. Sauf que, comme le bagne a eu plusieurs vies, et donc a mué plusieurs fois, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un moment, un temps très fort, parce que c'est une volonté excellente et voire très forte que de vouloir exorciser ou transcender pour que la ville et les citoyens de cette ville puissent se réapproprier leur histoire, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit le caractère douloureux et des fois presque, on peut dire, inhumain qu'on a pu imaginer dans ces espaces. Aujourd'hui, c'est un espace qui est voué à la création, qui interpelle des jeunes à travers l'école sur leur créativité. On se concentre et on profite de cet espace paisible, parce qu'on n'est plus dans les contraintes et dans la vie du quotidien du bagne, mais on est juste dans un espace retiré, calme, qui est favorable à la création artistique, à la recherche et au laboratoire, j'ai envie de dire.
J'imagine que vous avez voulu savoir si le théâtre existait d'une façon ou d'une autre à l'époque du bagne, donc avant la fin, avant 53. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dessus ?
On a trouvé justement l'existence d'un théâtre, du théâtre dans le bagne, plus précisément au camp de la relégation, il y avait du théâtre et des représentations théâtrales qui circulaient même ici au camp de la transportation et qui étaient admises par l'administration pénitentiaire. En fait, les bagnards, les prisonniers, ils recevaient les gazettes de l'époque, des journaux de Paris, et ils s'amusaient à reproduire les choses qui se passaient dans les lieux culturels parisiens. Et donc, il y avait des pièces de théâtre qui étaient montées, jouées par les hommes, bien sûr, entre eux, par les bagnards. Il y avait beaucoup de vaudevilles, de pièces de formes très brèves. C'était l'époque des chansonniers à Paris et tout ça, donc il y avait une culture de cette chose. Il y avait un théâtre dans le bagne.
Attention les hommes, pour chanter auprès de ma blonde qui fait bon dormir, nous y sommes.
Oui, oui, oui.
Alors, à l'avant. Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde viennent faire leur nid auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Eh ben, moi, si j'étais auprès de ma blonde, je dormirais point, je...
Oh, la ferme, Pitou, tu n'auras...
Le bagne, c'est un sujet de tabou, et pourquoi ? Est-ce que ça touche à l'identité ? Est-ce que ça vient chercher dans l'identité des gens et les déranger ?
Ben évidemment, c'est une chose très délicate, j'ai envie de dire, la question du bagne. C'est quand même assez délicat du point de vue de la perspective qu'on y met derrière, parce que, en fait, ce lieu, même pour nous au quotidien, avant, quand il y avait la nature luxuriante, c'était moins présent. À partir du moment où tous les bâtiments commencent à être refaits, tout d'un coup, il y a quelque chose, une présence qui surgit et qui questionne malgré tout. Donc, pour les Saint-Laurentais et les Guyanais, je pense que l'histoire du bagne en soi, ça vient bousculer l'identité de la Guyane et ça lui laisse un goût amer, une trace un peu sombre malgré tout. Mais comment on pouvait ternir une zone de la terre en disant tiens, c'est le lieu de l'exil et là on va réparer l'humain. Or, en fait, si on fait le bilan, on peut se questionner sur la réparation de l'humain là-dedans. Donc ici, être au milieu de ça, avec la création, avec des désirs de création et des rêves et de la mise en œuvre
d'œuvre artistique, eh ben, je trouve que c'est pas une chose anodine, quoi. Non.
Finalement, c'est une histoire de blanc ou c'est une histoire d'Aiguillonnais ? Parce que ici, c'est un monde métissé, riche de différentes cultures. Est-ce que ça a à voir finalement avec tous les Guyanais, à votre avis ?
Oui, moi je pense que le bagne en Guyane, c'est une histoire qui marque déjà la terre de Guyane. C'est une grande cicatrice, c'est une vraie cicatrice. Et donc c'est l'histoire des Guyanais, j'ai envie de dire, de tous les Guyanais. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui marque à tel point qu'il y a ce désir et ce rêve de transcender ou de transformer ou d'en faire autre chose de ce lieu pour pouvoir exorciser et créer une forme de résilience. Donc c'est l'histoire des Guyanais et c'est l'histoire de la Guyane qui est en plus en marche, parce que c'est pas un lieu anodin qui est laissé comme ça dans un trou sombre de l'histoire. C'est pris en compte et on y participe.
Ce jeune homme qui nous regarde, c'est le visage d'un jeune homme noir qui part vers le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Il est probablement sénégalais. On voit qu'il porte un baluchon avec son uniforme de transporté et les quelques effets qui l'emmènent vers la Guyane. Et le présenter, c'était une façon un petit peu de rendre hommage aux condamnés coloniaux qui ont été envoyés en Guyane, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une histoire métropolitaine, mais en réalité, c'est une histoire surtout coloniale. Et donc cette photographie, c'était pour moi rendre un visage à cette histoire coloniale et à ces condamnés coloniaux.
Marie Bourdeau, face aux agrandissements géants de trois visages de bagnards coloniaux. C'est la première image de l'exposition permanente du musée du Bagne, une exposition réalisée avec votre complicité, Michel Pierre.
Oui, la loi sur la transportation précise bien que les condamnés aux travaux forcés originaires de la France et de ses colonies devaient venir en Guyane et un temps en Nouvelle-Calédonie pour travailler au développement de ces deux pays, de ces deux régions. Et ils viennent évidemment de tous les territoires de l'Empire, depuis l'Algérie pour une partie importante, jusqu'aux condamnés des Antilles, du Sénégal, un moment d'Indochine. Ils viennent de tout l'Empire, ici en Guyane.
On a travaillé à partir de plusieurs regards, que ce soit le regard de l'historien, celui de l'archiviste, mais aussi à partir de parcours individuels, et c'est ça qui constitue le cœur de l'exposition. C'est-à-dire qu'on a essayé de redonner la parole ou de redonner un visage à ces hommes qui sont passés par le camp de la transportation, aussi bien à travers leurs témoignages, puisqu'on a plusieurs extraits de transportés célèbres ou moins célèbres, comme Paul Roussinck, par exemple, Eugène Dieudonné, Charles Hutt, Raymond Vedet, donc, qui sont cités à travers tout le parcours d'exposition. Mais on a essayé aussi de redonner un visage à des anonymes qui sont passés par le camp de la transportation.
Ce que nous avons tenté par la photographie, par les dossiers, par tout le travail réalisé localement par les archives municipales, c'est de donner vie, ou plus exactement de rendre une forme de dignité à tous ces condamnés qui n'étaient pas, la plupart d'entre eux, bien évidemment des agneaux ni des gens obligatoirement très fréquentables, mais il n'empêche, ils étaient ici des hommes punis, des hommes condamnés, et pour redonner leur dignité, il faut leur redonner le visage, il faut leur redonner un nom et pas seulement un matricule, montrer leur vie quotidienne, multiplier les témoignages de leur vie, et pour cela s'appuyer tout un travail assez considérable qui est fait depuis plusieurs années à Saint-Laurent, par toute une équipe qui a répertorié, classé, montré les archives et toute cette vie qu'il va au-delà de ce qui est en particulier rassemblé aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence.
Pour moi, ce qui était important, c'était de redonner un petit peu d'humanité à ce lieu. Qu'on réussisse à retracer des parcours individuels, à redonner un visage à ces bagnards, à ces hommes finalement, parce qu'on les appelle des bagnards, des transportés, mais avant tout ce sont des hommes. Donc l'idée, c'était vraiment de leur redonner vie et d'une certaine façon de leur rendre un hommage à travers ce parcours d'exposition.
Dans l'état actuel de la recherche, est-ce qu'on a les noms de tous ceux qui sont passés par ici ?
Non, malheureusement, on n'a pas les noms des 70 000 transportés qui sont passés par la Guyane, mais on espère petit à petit retrouver des bribes de parcours de vie et réussir à redonner un petit peu de cœur à cette histoire.
Guyane sur les traces du bagne, c'était le deuxième volet de notre reportage à réécouter sur RFI.fr. Une édition de la Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité du musée du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. L'ancien camp de la transportation vient juste d'ouvrir ses portes et se visite, vous l'aurez compris. Un grand merci à Marie Bourdeau et à toute l'équipe du musée du bagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos pages internet et sur la page Facebook de la Marche du Monde, podcastée. Cette émission, c'est la vôtre. Oui.